Super. J'espère que vous êtes régalés à suivre cette épître. J'espère aussi que ça aide à vous donner une vision un peu plus globale. Oui, pardon, les enfants, vous pouvez y aller. C'est bon, Vanessa les récupère. C'est intéressant, voilà, quand on lit la Bible, de ne pas forcément faire que extraire des versets comme ça, mais de se plonger à la fois dans un texte, mais aussi dans tout un livre, toute une lettre, parce qu'il y a une cohérence. Quand l'auteur biblique va écrire, ben, il va y avoir une cohérence générale sur toute l'épître ou un évangile ou quoi que ce soit, quelques livres de la Bible. Et voilà, donc je veux encourager ceux qui n'ont pas forcément écouté tous les enseignements, ben, allez sur le site et puis prenez le temps, écoutez-les. Vous pouvez même les écouter en version accélérée, vous savez. Ah non, pardon, il faut être sur YouTube, ça. Bon, vous demanderez la technique à Pierre, je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais s'il y a possibilité, on peut augmenter légèrement la vitesse de lecture, ce qui permet de l'écouter un peu plus rapidement. Donc on est au chapitre 4 pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible. Normalement, il y a un PowerPoint, Nicolas, si tu le retrouves sur le bureau. Alors, cette lettre est très très riche. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. En fait, on pourrait faire une prédication quasiment à chaque verset. Ça suffirait pour alimenter le contenu d'une prédication. Paul va rappeler dans cette lettre, dans cette missive, un certain nombre de points qui sont importants pour la vie chrétienne. Rappelons-nous, en termes de contexte, que Paul écrit d'une prison, probablement, très probablement, depuis Rome, et vers la fin de sa vie. C'est donc fort de plusieurs années d'expérience avec le Seigneur qu'il va écrire et qu'il va donner ses recommandations. Nous avons vu, entre autres, que Paul encourage à être joyeux dans cette lettre et à vivre dans l'amour. C'est quelque chose qu'il va mettre en avant. Il va nous encourager aussi dans le fait que les difficultés de la vie, comme par exemple l'opposition ou pour lui l'emprisonnement, ne sauraient arrêter l'annonce de l'Évangile. Rien ne peut se mettre en travers du fait d'annoncer l'Évangile. Même emprisonné, on a vu dans cette lettre que Paul amène un certain nombre de personnes de la maison de César, c'est-à-dire celui qu'il avait emprisonné, à devenir chrétien. Paul va jusqu'à annoncer l'Évangile, même à ses bourreaux. Il va nous dire aussi que souffrir pour Christ n'est pas une exception. C'est pas quelque chose avec lequel on doit être surpris, mais ça fait partie de l'appel qui est lié à prêcher l'Évangile. Il nous dit aussi que la mission se vit en famille d'Église autour d'une équipe apostolique et des relations entre les églises locales. On voit que l'Église de Philippe a participé, a été très généreuse pour soutenir d'autres communautés qui faisaient partie de la famille d'église de Paul. Il nous dit aussi qu'il faut se garder des fausses doctrines et de ceux qui nous détournent de l'évangile et de la personne de Christ. Il nous recommande aussi d'avancer toujours plus vers Christ et de marcher avec lui tous les jours. Et plein d'autres choses que vous pouvez découvrir ou redécouvrir dans les prédications. Et donc, on arrive maintenant à la conclusion de l'épître et on va relever ensemble les dernières recommandations de Paul. Ce qui est intéressant dans ce dernier chapitre, alors bien sûr, ce ne sera pas une étude exhaustive, c'est comme je l'ai dit au début, c'est beaucoup trop riche. On serait là jusqu'à probablement demain matin. Mais on va relever certaines choses et on va se focaliser sur quelque chose qui transparaît assez fort quand même dans ce chapitre 4, c'est le caractère du chrétien. Paul va terminer l'épître aux Philippiens en mettant le doigt non pas sur les dons, spécifiquement, mais sur le caractère. Où en es-tu dans ton caractère? Le fruit de l'esprit, selon l'expression qu'il utilise dans Galates 5. Ce fruit qu'une vie en communion sincère avec Dieu, eh bien, est capable de développer en toi. Alors, on va prendre morceau par morceau. On ne va pas le lire d'un trait, mais on va le dérouler. On va commencer du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Encore une fois, on voit l'amour que Paul avait pour les Philippiens. D'accord ? C'était pas une lettre du tout de reproche ou de... Il était en train de reprendre des choses. C'est vraiment une lettre qu'il écrit à ceux qu'il aime. J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Marie, tu vas voir que ta première parole et la première prière que tu as faite, c'est le début du message. Paul, comme à son habitude... Ah, je m'en rappelle, oui. Est-ce qu'on a eu l'intervention d'un téléphone qui nous disait « Est-ce qu'on se rappelle le jour où on a rencontré Jésus ?» Paul, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le temps, dans les conclusions de ses lettres, de nommer un certain nombre de personnes. Ici, on voit Évodie, Saint-Tiche, un fidèle collègue, Clément, très probablement, pas celui que nous avons parmi nous, il est un petit peu plus âgé, mais c'est probablement un des pères de l'Église, ce fameux Clément de Rome que vous retrouvez dans la littérature chrétienne. Et les compagnons d'œuvre, et plus bas, à la fin de l'épître, il va citer encore un autre nom, il va parler d'Épaphrodite. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça, en fait ? On pourrait passer et se dire, bon, on ne les connaît pas, au revoir, je continue ma lecture. Mais si on s'y arrête un petit peu, ben, y a des choses que l'on peut retirer du fait que Paul va citer des noms comme ça. Il nous rappelle simplement qu'une église locale est composée de personnes et que chacune est importante. Le Seigneur nous l'a rappelé ce matin par la bouche de Marie. Et en fait, ce fut un des nombreux conseils, merci Joël, qu'il nous a laissé en transmettant le leadership de l'Église. Et je me rappelle, et ça résonne de temps en temps dans mon cœur, il nous avait dit, c'est super, une bonne organisation dans une Église, c'est super d'avoir une vision claire, mais ce qui est important, c'est les gens. Ce sont les personnes qui composent la communauté. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce conseil que tu nous avais donné, Joël. Mais c'est exactement ce que Paul dit ici en citant les noms. Et à chaque fois que vous êtes à la fin d'une épître et Paul prend le temps de citer les noms, il est en train de nous rappeler que chaque personne est importante. Faire partie d'une communauté chrétienne ne signifie pas se fondre dans la masse et ne plus avoir de rôle propre. Cathy nous a réencouragé à la communauté. Mais il y a aussi cet encouragement à toi. Et il y a les deux dans la parole de Dieu. D'accord ? Ça ne s'oppose pas. Dieu sauve un peuple. Et comment il constitue ce peuple ? En sauvant chaque personne individuellement. Le corps de Christ est un corps où chaque membre peut être nommé pour sa spécificité. Je vais le relire, ça. Ça m'a plu. Le corps de Christ est un corps où chaque membre peut être nommé pour sa spécificité. C'est ce que Paul va faire dans l'Épître aux Corinthiens. Il va dire un est l'oreille, l'autre est le pied, l'autre est... Chaque membre peut être nommé pour sa spécificité. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire qu'il est exceptionnel ? C'est ça que Paul est en train de nous dire. Ici, Richard, tu es exceptionnel. Tu es unique. personne n'est comme ton voisin. Et ton voisin n'est pas comme toi. Merci. Vous voyez comme c'est important de s'arrêter sur les mots parfois. En d'autres termes, si vous n'êtes pas là, présent, avec ton caractère, avec tes dons, eh bien tu manques à la communauté. Quand tu n'es pas là, il y a un vide qui est laissé. C'est ce que Paul nous dit. Et c'est important. Et Paul va mettre un cachet à ça, il va entériner cette identité propre de chacun des membres avec cette expression à la fin là, dont les noms sont dans le livre de vie. Marie nous a parlé des noms des étoiles et des noms de chacun. Chaque nom est inscrit dans le livre de vie. On se rend compte de ça ? Il y a au moins deux choses qu'on peut relever avec cette expression que l'on va retrouver après dans le livre de Jean, le livre de l'Apocalypse. Chaque chrétien est identifié personnellement. Premier point. Personnellement. Ce n'est pas l'Église de Marguerite qui est inscrite dans ce livre, mais c'est Marie, Nathalie, Corinne, Robert, Jean, etc. Chacun de nos noms sont inscrits dans ce livre. Ainsi, même si nous appartenons à un seul corps, nous sommes sauvés individu par individu. C'est pourquoi chaque personne est appelée à se repentir individuellement, afin que son nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je le redis peut-être d'une manière un peu plus directe ce matin, ce n'est pas parce que tu fréquentes une communauté, une église, que tu seras accueilli dans la vie éternelle. Toutes celles et ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, avec un cœur contrit, vraiment repentant, ne sont pas inscrits dans ce livre de vie. Et leur destinée, c'est les temps de feu préparés pour Satan et ses anges. Chacun, nous devons nous repentir devant le Seigneur afin que notre nom soit inscrit dans ce livre. La deuxième chose qu'on peut retirer de cette expression, c'est l'assurance du salut. Si tu es à Christ, que Christ est bien ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu es déjà inscrit dans le livre de vie. Waouh ! Tu es déjà inscrit dans ce livre. Et la bonne nouvelle que Jean nous dévoile dans Apocalypse 5, c'est que personne ne peut l'ouvrir. Et c'est une bonne nouvelle. Personne ne peut l'ouvrir. Alors oui, c'est triste ce moment dans l'Apocalypse. Mais personne ne peut l'ouvrir, ça veut dire quoi ? Que ce livre est scellé par Dieu lui-même. Il nous est même dit qu'il y a 7 sceaux. Ça veut dire que c'est scellé. Définitivement. Le seul qui peut l'ouvrir, il n'y en a qu'un. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Paul nous rappelle donc ici à quel point notre salut est gardé dans les mains de Dieu et que nul ne nous ravira de sa main. Et je le répète encore, je ne me lasserai jamais de le répéter, je crois que toutes ces théories sur la perte du salut ne sont que des fables et des spéculations. Je ne crois pas que ce soit l'enseignement biblique. On va relire Jean 10 pour nous conforter encore plus là-dedans, versets 26 à 30. Jean 10, versets 26 à 30. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie temporaire. » Ah non. « Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront, peut-être Ah non, il n'y a pas peut-être. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus a parlé. Et des fois qu'on n'est pas tout compris, il rajoute, mon Père, il monte un cran, entre guillemets, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Merci Seigneur, merci parce que nous sommes en sécurité, Seigneur. Quand nous sommes à toi, nous sommes à toi. Et personne ne peut ouvrir ce livre de vie, si ce n'est Jésus qui me dit que personne ne me ravira de sa main. Amen. Poursuivons. Versets 4 et 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Paul nous rappelle ici qu'il y a toujours sujet à se réjouir, si toutefois nous regardons à Christ. Il est vrai que la vie nous fait parfois traverser des épreuves d'une grande tristesse. Mais en Jésus, il y a une source de joie si profonde, si intense, qu'elle peut tout surpasser. Et c'est pour cela que Paul insiste et donne presque un ordre. C'est le temps ici utilisé, c'est un impératif. Réjouissez-vous. Et il enchaîne par votre douceur. Un des fruits que la joie peut produire, c'est bien la douceur. Il est intéressant de relever les traits de caractère qui sont importants à Paul. La joie, la douceur. Un caractère joyeux, un comportement doux, et cela avec tout le monde. Parce qu'il va continuer en disant, et que ce soit connu juste le dimanche matin. Après, tu fais ce que tu veux. Non. Il ne dit pas ça. Il dit « Et que ce soit connu de tous les hommes. » Ta douceur, ta joie. Là encore, la vie peut nous rendre tristes et durs. Mais en fixant les regards sur Jésus tous les jours, le Seigneur est proche, nous dit Paul. Lève les yeux, il arrive. Il vient bientôt. Chacun de nous peut développer alors un caractère joyeux, empreint de douceur et de gentillesse. Ô combien on a besoin de réentendre ça, non ? Dans ce monde de temps en temps de fous, qui nous pousse à être durs. Paul nous dit, non, vous avez le Saint-Esprit, que votre joie et votre douceur soit connue de tous. Amen. Et c'est ce que Jésus avait dit, en fait. Et ce que je me suis rendu compte en reprenant cet épître aux Philippiens, c'est que Paul, en fait, il fait que répéter ce que Jésus avait dit. Au moins, c'est facile. Dans Jean 13, verset 35, Jésus avait dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Douceur, gentillesse, joie. Continuons. Ne vous inquiétez de rien, versets 6 et 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un autre caractère du fruit de l'esprit, oui, vous êtes toujours avec moi, hein, on voit bien que le caractère du chrétien est très présent dans Philippiens 4. Ici, c'est la paix. Après être joyeux, doux, la paix. Est-ce que c'est d'actualité de parler de paix ? Oui, toujours et encore. Ni les progrès technologiques, ni la science n'a réussi à procurer la paix. Nous vivons dans un monde stressant, anxiogène, à de multiples niveaux. Les guerres, les famines, les perturbations climatiques, les maladies, le chômage, la pression au travail, les examens à l'école, etc., etc., etc. On vit dans un monde sous pression. Et le remède que Paul nous laisse ici, il est simple. La prière et la supplication. La prière, j'ai séparé un petit peu les deux, c'est cet acte régulier, quotidien, tous les jours qui me connecte à Dieu. Si je ne veux pas laisser le stress de la vie s'accumuler en moi, comme une cocotte minute, vous savez, là, quand elle est bien fermée, ça monte en pression, eh bien, je crois que je me dois tous les jours à la prière. Tous les jours. La supplication, c'est quand la cocotte minute, vous savez, il y a le petit truc qui tourne là, ça commence à tourner. Alors là, ça chauffe et j'en peux plus. Et là, qu'est-ce que je commence à faire ? En général, je commence à crier « Seigneur !» C'est ça la supplication. On gémit. Pardon ?
C'était trop fort.
Alors on gémit et on exprime fortement notre trop-plein. Pourquoi on arrive à se mettre dans cet état-là ? Ben peut-être parce qu'on oublie la prière et on la met de côté. Et en faisant cela, en fait, on laisse les choses de la vie d'ici-bas être plus importantes dans notre cœur, dans notre tête, que Jésus. C'est aussi simple que ça. Quand on laisse la cocotte minute là monter et qu'on délaisse la prière, eh bien, on laisse tout simplement les choses de la vie terrestre devenir plus importantes que notre relation avec notre Père, avec Jésus et la communion avec le Saint-Esprit. La prière, elle nous recentre, Paul va dire, elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette habitude de prier tous les jours, peut-être travaille cela dans ta vie, dès aujourd'hui. Ne repars pas en te disant « on verra ça demain ». Non, saisis ça et dis-toi « mais pourquoi ? » Pourquoi est-ce que je dois attendre que le bouchon de la cocotte minute se mette à tourner pour que je me mette en prière ? Paul dit « fais-le tous les jours, prie. » Prie en prenant ta douche. Facile ça, non ? Prie avant chaque repas. Prie en consacrant un moment spécifique. Si tu n'y arrives pas, prie avec quelqu'un. Va voir un frère, va voir une sœur et dis-lui, écoute là, moi j'y arrive pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Rendez-vous 5h15 le matin, un petit zoom et là vous aurez Cathy. Prions. Je le dis avec humour, mais vous avez compris, c'est profond ce que nous dit Paul là. N'attends pas que le bouchon de la cocotte minute se mette à tourner. Parfois, il tourne sans qu'on l'ait laissé, d'accord ? On a des situations de la vie qui fait qu'il y a un cri de gémissement là qui monte et les supplications sont là. Mais hormis ces cas particuliers, ne laissons pas ce bouchon tourner. On continue, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh ! Si vous avez le temps de penser à autre chose après ça, c'est que vraiment vous êtes des grands penseurs. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je ne vais pas m'attarder trop long sur ce passage, vous pourrez le relire tranquillement à la maison, c'est très très riche. La règle de conduite que Paul donne ici est simplement encore une fois un rappel de ce que Jésus avait dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En gros, faites le bien. Sois vrai, traite avec honneur celui qui est à côté de toi. Sois juste, garde tes pensées pures et manifestes de l'amour. Ne vis pas ta vie chrétienne dans l'attente de rendre le bien que l'on t'aura fait. Est-ce que parfois on n'est pas comme ça? J'attends. Avant de bénir Corinne, je vais d'abord attendre qu'elle, elle me bénisse. Et puis si elle est sympa, si elle m'a fait du bien, alors j'oserai en retour. Non, c'est pas ce que Paul nous dit là. Il dit, prends les devants. Toi, prends les devants. Bénis ton frère, ta sœur, avant qu'elle ne le fasse. Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Amen. Vous voyez bien qu'on peut faire un message sur chaque morceau, mais je passe. Une longue tirade, et on arrive à la conclusion bientôt, vous inquiétez pas. 10 à 19. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc en gros, ils devraient se débrouiller pour manger, se loger, etc. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc ce n'était pas la première fois. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche quoi ? Le fruit. Je cherche votre caractère qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul ponctue le caractère chrétien par une longue plume sur avoir un cœur généreux. Avoir un cœur généreux. Et par quoi il commence ? Par se donner un exemple. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour Paul, avoir un cœur généreux. Verset 12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation ». Et dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul montre dans ses versets que pour lui, la générosité, c'est donner jusqu'à se donner lui-même. Voilà ce qui nous explique Paul. C'est quoi la générosité ? C'est donner jusqu'à ce que toi-même tu t'inclus dans le don. Quand on accepte de vivre une humiliation, c'est que l'on sait donner. Quand on a faim pour annoncer l'Évangile, c'est que l'on sait se donner. Quand on est dans la disette, et ce mot est très peu utilisé de nos jours, ça veut dire qu'on manque des moyens de subsistance, nourriture, eau, un lieu pour dormir, un lieu pour se sentir en sécurité, etc. C'est ça la disette. Et quand on sait vivre dans la disette, c'est que l'on sait se donner. Dans son exemple, Paul montre jusqu'où la générosité peut nous conduire. Il ne parle pas du surplus que l'on peut mettre dans une offrande. Quand Paul parle de générosité, il va jusqu'à se donner lui-même dans l'offrande. Puis Paul mentionne la générosité des Philippiens envers lui. Et au verset 17, il va dire « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Le fruit de l'esprit. Donner est une sorte de curseur du niveau de confiance que l'on place en Dieu. Est-ce qu'on s'en rend compte de ça ? C'est simplement un curseur, la générosité. Où j'en suis de la confiance que j'attribue à Dieu. Si je ne donne rien, je ne suis pas confiant du tout. Je calcule tout, j'ai peur de perdre. Du coup, je garde pour avoir. Si je donne un peu, alors je place un peu ma confiance dans le Seigneur et je tente de maîtriser le reste avec mes efforts. On ne sait jamais. Dieu peut défaillir. Et si je donne beaucoup, alors je place pleinement ma confiance en Dieu et j'ai foi qu'il pourvoit à mes besoins. Dans la Bible, le mot foi et confiance, en fait, ils sont très facilement interchangeables. On peut, dans les versets que vous lisez, vous pouvez mettre soit l'un, soit l'autre, et vous restez très juste dans le sens. La foi, c'est avoir confiance. C'est pour cela que Paul poursuit au verset 18 à 20, en recevant ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et alors, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La générosité du chrétien prend sa source dans cette confiance que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Amen. Voilà pourquoi et comment nous pouvons être généreux. Parce que Dieu pourvoit à mes besoins et je lui fais confiance. Enfin, Paul, je dis souvent enfin, hein, vous avez remarqué que c'était une conclusion, termine cette lettre par des salutations où il va choisir, j'ai relevé juste un mot en particulier, c'est le mot saint. Il va finir avec ce mot-là, saint en Jésus-Christ. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi, vous saluent tous les saints. Vous salue et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il a commencé sa conclusion en rappelant que nous sommes inscrits dans le livre de vie. Et il la termine en mentionnant notre sanctification comme étant effectuée. Nous sommes déclarés saints en Jésus-Christ. Amen. Et on va finir avec le dernier verset que j'ai déjà lu. Comment Paul aurait-il pu terminer sa dernière lettre qu'il a envoyée à une église autrement que par ce verset? Vous êtes déjà posé la question? Il ne pouvait pas. Il pouvait écrire que ça. C'est quoi ce verset? Verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est important, hein? C'est la dernière phrase qu'il a choisie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La grâce de Dieu est au commencement de notre vie chrétienne. Elle nous accompagne tout au long de notre marche et nous la célébrerons encore et encore jusque dans l'éternité. Comme Paul le mentionne dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes prédestinés. À quoi? À la louange de la gloire de sa grâce. En d'autres termes, le but de ma vie est tout trouvé, si vous le cherchez encore, louer la gloire de la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Voilà le but de notre vie. Louer la gloire de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors je vais terminer avec cette prière de Paul. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir et on va prendre la scène pour terminer le culte ce matin? chrétien joyeux, chrétien doux, chrétien généreux, chrétien en paix, chrétien avec cette assurance que nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Chrétien qui réalisons que celui que Dieu a placé à mes côtés est indispensable et unique. Que la grâce du Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, soit avec votre esprit. Père, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, qui nous encourage, qui nous fortifie, Seigneur, qui nous montre, Seigneur, comment marcher avec toi, mais comment marcher tout court dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls, sans guide, Seigneur, abandonnés, Seigneur, ou désespérés, perdus, mais tu nous dis clairement, Seigneur, comment nous devons marcher, à qui nous devons ressembler. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Toi seul sais ce dont nous sommes faits, Seigneur, ça a été dit ce matin. C'est toi qui nous as faits à partir de la poussière, Seigneur. Et c'est toi qui as soufflé ce souffle de vie, Seigneur. Tu sais ce dont on a besoin. Tu sais ce à quoi toi tu nous appelles. Et notre prière, Seigneur, c'est envoie ta grâce sur nous, Seigneur, afin que nous puissions te servir par tout notre être, Seigneur, et que nous puissions célébrer la gloire de ta grâce en Jésus-Christ. Amen.